Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Dans l'agenda du mois de juin, la rétrospective Brian De Palma à la Cinémathèque française que nous évoquons en compagnie de Laurent Vachaud, co-auteur avec Samuel Blumenfeld, les entretiens avec Brian De Palma. Également programme les cycles Francis Ford Coppola à la Cinémathèque de Toulouse, Premières images du Maghreb à la Fondation Pathé et Cinépop Quiz au Forum des images. L'événement de ce mois de juin, c'est la rétrospective intégrale Brian De Palma à la Cinémathèque française qui a lieu du 31 mai au 1er juillet. À l'occasion de la parution de son premier roman, « Les serpents sont-ils nécessaires ?», coécrit avec Suzanne Lehmann aux éditions Rivage Noir. Et pour nous parler de Brian De Palma, nous avons la chance d'avoir par téléphone Laurent Vachaud, co-auteur avec Samuel Blumenfeld, les entretiens avec Brian De Palma, édité chez Carlotta. Laurent Vachaud, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors, vous avez donc publié ces entretiens avec Brian De Palma. Comment avez-vous rencontré le cinéaste?
Écoutez, ça remonte maintenant à un certain temps, hein, puisque la première rencontre, moi, en fait, avec De Palma, c'était pour la revue Positif, hein, pour laquelle j'écrivais. Je l'avais rencontré à la sortie de l'Impasse. Je me souviens, j'étais avec Philippe Rouillet, et c'était pour un entretien donc pour Positif. Et au même moment, Samuel Blumenfeld, qui lui à l'époque travaillait pour Les Inrecuptibles, le rencontrait aussi. Et on avait senti tous les deux qu'il avait des choses qu'il avait l'air de vouloir dire sans forcément avoir le temps. Enfin, puisqu'on parlait que de l'impasse là, nous on avait beaucoup de sujets qu'on aurait eu envie d'aborder avec lui. Il avait l'air tout à fait partant pour les aborder. C'est ça qui nous a fait nous dire, mais si on imaginait un livre, ça, je pense qu'on aurait vraiment matière à beaucoup de sujets à aborder avec lui, et apparemment on sentait qu'il était disposé à parler, alors qu'il avait quand même une réputation de tout mal léché, beaucoup de journalistes s'étaient cassés les dents, hein, sur lui, mais bon, si il voyait que vous aimiez son œuvre et que vous la connaissiez surtout, et que vous pouviez peut-être lui dire deux, trois choses qu'il n'avait pas entendues ailleurs, on pouvait avoir sa confiance. Donc c'était un peu un challenge qu'on s'était posé. Et à partir de là, donc moi je vous parle d'une époque, hein, où en tout cas tout le monde n'avait pas encore Internet, donc pour le joindre c'était assez compliqué. On passait par des gens qu'il connaissait, on envoyait des lettres, on recevait pas de réponse. Enfin, toujours est-il qu'on a réussi à le recoincer à l'époque où il venait faire à Paris le casting de Mission Impossible, puisqu'il voulait des comédiens français pour certains rôles. Et on a donc pu reprendre, enfin plutôt commencer plus exactement, les entretiens pour le livre à ce moment-là. Et ça, c'était donc en 1994. Mais on a vraiment pu le terminer le livre, des années après. Moi, j'étais allé le voir juste quand il venait de finir Mission Impossible 4-5 jours à Londres, où on avait pu un peu parler de certains films, mais il était vraiment épuisé, je me souviens, parce que c'était quand même après un film qui avait été très fatigant à faire. Et en fait, on est retourné à New York en 1998 après, et donc on l'a perdu de vue quand même pendant presque 3 ans. Et donc c'était là assez problématique, parce qu'on ne savait pas si on allait pouvoir terminer ce bouquin un jour. Entre-temps, on avait trouvé un éditeur, et c'était vraiment c'était un peu l'inconnu, hein. Aujourd'hui, ça fait sourire, parce qu'il est très disponible, enfin, on le voit venir des rétrospectives, mais c'était pas comme ça, hein, il y a 20-25 ans.
Alors, ce qu'on découvre dans votre livre, c'est, ça, j'aimerais bien que vous nous en parliez, et ce n'est pas forcément évident quand on connaît pas bien Brian De Palma, c'est la part autobiographique dans ses films. Comment elle se révèle, en fait, cette part autobiographique dans la filmographie de Brian De Palma?
Il se trouve, en fait, nous, que d'abord, presque, en France, en tout cas, on connaissait presque rien de sa vie familiale, privée, parce que c'est pas quelqu'un qui en parle. Hein, moi, il se trouve que j'avais lu, et Samuel aussi, un livre qui s'appelait The Devil's Candy, qui n'était pas traduit en français, mais qui était consacré au tournage du Bûcher des Vanités, et qui avait été écrit par une amie journaliste à lui, et qui avait en fait suivi tout le tournage du Bûcher des Vanités, et raconté un petit peu tous les problèmes qu'il avait rencontrés. Le tournage avait été quand même assez problématique, et le film a été une catastrophe commerciale. Et là, il y avait des éléments de biographie qui livrait, et que moi, en tout cas, je n'avais jamais entendu avant. Et c'est là où on a vu qu'il y avait quand même des... qui suivait son père, quand son père allait voir ses maîtresses, enfin, des choses qui nous semblaient quand même très proches de certains de ses personnages, comme le personnage de Peter Miller, qui est joué par Keith Gordon dans Pulsion, une espèce de petit scientifique comme ça, qui construit des machines pour espionner, pour filmer. Il avait fait, lui, ça, quand il suivait son père. Et dans le film, on voit que Peter Miller construit une espèce de caméra pour filmer le cabinet du docteur Elliot, pour savoir qui est la tueuse qui est parmi ses patientes. Donc ça nous paraissait quelque chose d'un angle intéressant pour De Palma, parce que c'était un cinéaste dont on parlait souvent comme un cinéaste dérivatif, qui faisait des films inspirés des œuvres des autres cinéastes, Hitchcock, Howard Hawks. Donc il y avait bien sûr cette dimension-là, mais qui nous apparaissait quand même aussi très relative, parce que l'influence d'Hitchcock sur De Palma, en tout cas ouverte, ça concerne quoi, 5 films hein, à peu près, hein, pas beaucoup plus. Et cette dimension autobiographique nous paraissait quand même... vraiment importante et en tout cas à explorer. Et c'était un des axes qu'on voulait avoir pour ce livre d'entretien.
Alors,
de prendre la dimension autobiographique de cette œuvre.
Brian De Palma est sans doute un des cinéastes qu'on pourrait qualifier vraiment de maniériste. Ce n'est pas du tout péjoratif. Hein, c'est un terme, je pense, qui convient assez bien à sa façon de faire, sa façon de filmer, où il multiplie les ralentis, les split screens, la caméra subjective. Où c'est vrai, et certains adorateurs du cinéaste en France, ils sont quand même assez nombreux, disent même que la mise en scène devient presque le sujet de ses films. On en oublie l'histoire. Est-ce que vous rejoignez, vous êtes un admirateur total de ça, ou parfois, oui, cette mise en scène qui devient presque un sujet d'étude devient presque étouffante et un peu excessive.
Moi, je trouve qu'il y a des films qui se prêtent effectivement à ça, notamment beaucoup des films de la période inspirés par les films Hitchcock, mais il y a d'autres films qui sont au contraire avec une mise en scène très documentaire, hein, presque nouvelle vague, quand vous voyez ces films des années 60, comme Greetings, I'm Home, c'est au contraire pas du tout... il y a quelques effets de style, hein, des accélérés, mais on sent que l'influence, c'est plus les films de Richard Lester, la nouvelle vague française, c'est pas du tout le maniérisme qu'on a pu voir apparaître à partir de Sœurs de sang ou Blowout... Pulsion, vous voyez, ce côté-là qui peut faire penser aussi à certains films de Dario Argento, hein, qui avait un peu cette tendance aussi à travailler le film criminel comme ça avec des grands effets de style. Moi, je trouve toujours chez lui une grande émotivité, c'est ça qu'il raccroche à Hitchcock. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il filme des scènes de douche, c'est que ces films sont extrêmement, on sent que c'est un type qui est à fleur de peau. Cette emphase, justement, des fois, ce goût pour les effets, révèle ça. Et moi, ça me plaît beaucoup. Mais je trouve qu'on l'a souvent trop réduit, en tout cas en France, à quelqu'un qui s'inspirait des films d'Hitchcock. Et c'était quelque chose qu'on voulait aussi relativiser, parce que il y a des tas de films qui n'ont rien à voir avec Hitchcock, et il a des effets de style qui n'ont rien à voir avec le style d'Hitchcock. Par exemple, on parle du ralenti. Trouvez-moi un film d'Hitchcock dans lequel il y a un ralenti. Moi, j'en vois pas. Ou alors il y a un très très faible effet de ralenti dans la maison du docteur Edwards, dans la scène de rêve, mais c'est pas vraiment ce que le ralenti tel que l'emploie De Palma. Donc vous voyez l'écran partagé, le split screen, qui est une de ses figures de style favorites, il y en a pas chez Hitchcock. Donc vous voyez, il y avait plein de choses à relativiser comme ça, et il a un style qui lui est propre, il a une éducation qui lui est propre, il a aussi... une sensibilité qui est très différente de celle d'Hitchcock. Il n'y a pas cette notion de culpabilité qu'il y a dans beaucoup de films de Hitchcockiens. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait lui faire dire. pour justement que les gens puissent prendre la mesure d'une œuvre qui n'est pas seulement celle d'un pasticheur ou d'un type qui fait des à la manière d'eux, parce que c'est quand même surtout aux États-Unis l'image qu'il a. Hein. On dit que c'est un type qui ne sait faire en fait que des imitations de films de grands maîtres.
Oui, et c'est d'ailleurs sans doute peut-être une des raisons, ou la principale raison, qui fait qu'il n'a jamais eu la reconnaissance artistique aux États-Unis, contrairement à ses petits camarades du Nouvel Hollywood, ça c'est quand même assez frappant, il n'a jamais été nommé à l'Oscar du meilleur réalisateur. Alors il a eu des prix par ailleurs, mais aux États-Unis c'est quand même frappant. Comment on peut expliquer, oui, alors il y a bien sûr cet aspect-là de pasticheur Hitchcockien, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer ce manque de reconnaissance outre-Atlantique?
Oui, vous savez, les Oscars, enfin, pour ce qui est des Oscars, les Oscars c'est surtout un concours de popularité au sein de la communauté hollywoodienne. Des gens comme Hitchcock ou comme Kubrick n'ont jamais eu l'Oscar du meilleur réalisateur. Et donc ça, c'est est-ce que vous jouez le jeu? Est-ce que vous habitez à Los Angeles? Est-ce que vous faites des campagnes pour avoir l'Oscar? Est-ce que vous serrez des louches? Enfin, comme pendant une campagne électorale, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vrai que lui, il a jamais joué ce jeu-là. Je crois qu'il se tape complètement d'avoir un Oscar, même si au fond de lui, il y a un désir de reconnaissance. Hein. Mais il est trop fier ou trop... il n'a jamais voulu jouer ce jeu. Et des gens comme Spielberg, comme Coppola, eux étaient plus là-dedans et ont eu la chance peut-être aussi de faire des films qui ont été plus ouvertement reconnus et sur le plan critique et sur le plan commercial. Lui, à cause de ses enfants à Hitchcock, à cause de cette image comme ça qu'il avait de faire. Vous savez, on n'a pas des films, on n'a pas des Oscars à Hollywood quand on fait des films où on tue des femmes, où on montre des serial killers, où on montre des hectolitres de sang. Ça, c'est pas du tout l'image du film à Oscar. Donc il était mal parti pour en décrocher. Et d'ailleurs, il n'en a pas eu. Moi, je pensais même qu'il allait avoir une nomination aux Oscars pour Incorruptible, par exemple, qui avait évalué...
Oui, qui avait quand même été bien reçu là-bas, oui.
Voilà, mais il ne l'a pas eu. Il ne l'a pas eu non plus, car ça a été complètement ignoré par les Oscars, parce que c'est un film trop violent. Al Pacino, pourtant, aurait mérité un Oscar du meilleur acteur. Sean Penn aurait dû avoir l'Oscar du meilleur second rôle pour L'Impasse. Il n'a même pas été nommé. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, au sein de la communauté hollywoodienne, pas seulement les critiques, ne passe pas pour quelqu'un d'estimable.
Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même une carrière très très chaotique, puisque il a vraiment alterné pendant une trentaine d'années entre succès et échecs, certains échecs qui sont devenus ensuite des succès ou des films cultes. Mais il a aussi, vous parliez tout à l'heure du Bûcher des Vanités, qui en fait vraiment partie, a connu de très gros échecs, mais il s'est quand même tout le temps relevé. Mais il semblerait là quand même depuis une dizaine d'années qu'avec les États-Unis, ça n'est plus vraiment une histoire facile et qu'il se tourne maintenant vers l'Europe pour tourner ces nouveaux films.
Oui, bah, vous savez, ça a été le cas d'autres cinéastes avant lui, hein, pour des raisons diverses et variées. C'est-à-dire, quand vous ne trouvez plus de financement en Amérique, le prestige que vous avez outre-Atlantique vous amène des fois à aller chercher des financements ailleurs. Donc, lui se trouve dans ce cas-là. Je pense aussi qu'il a un ras-le-bol de la manière dont on fait les films en Amérique aujourd'hui. Enfin, quand vous voyez le cinéma américain actuel, c'est pas franchement quelque chose où... un cinéaste comme lui peut trouver sa place. Enfin, faire des films de super-héros, des films pour ados, lui, c'est quand même le jour et la nuit. Même Martin Scorsese, vous voyez, pour son dernier film, il a été obligé d'aller chercher le financement chez Netflix. Moi, je pense aussi que il n'est pas quelqu'un qui veut à tout prix, rester dans le game. C'est-à-dire... sinon, il aurait pu se mettre à faire des films de Batman, comme ça, s'il avait vraiment voulu rester dans le coup. Il ne veut faire que les films qu'il a envie de faire. Il ne veut pas faire des séries télé. Il a eu une expérience même de téléfilm avec HBO qui s'est très mal passée parce que il avait pas envie de suivre leurs indications. Il trouvait que la forme, en tout cas, de la série télé ou du téléfilm HBO actuel n'est pas une forme où le metteur en scène trouve sa place. C'est-à-dire où c'est juste un employé, comme à l'époque des grands studios. C'est le scénariste et le producteur qui sont les rois, et le réalisateur est vraiment engagé pour mettre en boîte le truc. Et tous les réalisateurs d'une série, en fait, doivent faire le même genre de mise en scène. Donc lui, ça, c'est pas quelque chose qui lui convient du tout. Donc il c'est pas quelque chose qu'il a regardé avec envie. Donc il est venu en Europe pour faire Femme fatale, pour faire c'est parce qu'il arrivait pas à les monter, enfin peut-être qu'il les aurait montés mais beaucoup plus difficilement, et il se sentait beaucoup plus libre en tout cas en Europe et peut-être plus respecté.
Alors, aux spectateurs qui ne connaissent pas tous les films de Brian De Palma et qui vont les découvrir là pendant cette rétrospective, quel est le film, alors bien sûr c'est totalement subjectif comme toujours, mais quel est le film ou même la scène, parce qu'il peut y avoir de très bonnes scènes dans un film pas forcément mémorable, mais une scène qui nous retient, ce serait quoi? Ce serait quel film de Brian De Palma selon vous?
Il y en a vraiment des dizaines, parce que s'il y a un cinéaste du morceau de bravoure, c'est bien De Palma. C'est-à-dire que vous avez énormément de ces films qui sont construits comme ça autour de 4-5 grands moments visuellement époustouflants, et on sent que le film après jette des passerelles entre ces grands moments pour faire exister le film. Après, bon, chacun a ses préférés. Moi, l'image qui me reste le plus, c'est en tout cas sur le plan émotionnel, hein, je ne vous parle pas forcément de la mise en scène. Par exemple, la fin de Blowout, c'est quelque chose moi que je trouve déchirant. C'est-à-dire quand vous avez Travolta qui est obligé de regarder son film d'horreur Lose, qu'il a sonorisé avec le cri de la femme qu'il aimait, qui meurt vraiment, mais il est le seul à le savoir, et qu'il se répète à lui-même, ça c'est un cri, ça je trouve que c'est absolument déchirant. C'est peut-être, moi je trouve, la plus belle scène du cinéma de De Palma. Après, il y en a des dizaines d'autres. La poursuite dans la fin de Carlitos Way, c'est techniquement, émotionnellement, c'est je pense un sommet de son œuvre. Vous avez des tas de scènes de Mission Impossible. Enfin, moi, je pense que le cambriolage à la CIA, c'est très inspiré du film de Jules Dassin, Top Capi, mais c'est quand même extrêmement jouissif. Vous avez la scène de Pulsion, quand aussi il y a une filature dans le métro avec Nancy Allen, ou la scène du musée, quand Angie Dickinson se fait draguer par un homme. C'est purement une scène visuelle avec de la musique, il n'y a pas un dialogue, et c'est là qu'il est très bon. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait très très bien se filmer des choses très visuelles en se passant du dialogue. C'est pas un metteur en scène qu'il faut aller chercher pour mettre en scène des courtroom dramas, enfin des choses qui se passent pendant la procès. C'est pour ça qu'il était, à mon avis, pas forcément très à l'aise avec le boucher des vanités.
Bah écoutez, merci beaucoup Laurent Vachaud de nous avoir donné envie là de redécouvrir et de découvrir évidemment cette filmographie de Brian De Palma, donc qui à travers cette rétrospective à la Cinémathèque française, donc du 31 mai au 1er juillet. Et puis je rappelle bien sûr la parution de votre livre d'entretien avec Samuel Blumenfeld, édité aux éditions Carlotta, qui comporte également 6 DVD, 6 films emblématiques de De Palma: Phantom of the Paradise, Fury, Pulsion, Blowout, Body Double et Scarface. Merci beaucoup Laurent Vachaud.
Merci à vous.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
J'ajoute qu'une discussion avec Luc Lagier aura lieu à la Cinémathèque française le jeudi 7 juin à 19h30 à la suite de la projection de Phantom on the Paradise. Et puis j'ajoute également qu'une édition prestige limitée du documentaire De Palma, réalisé par Noah Baumbach et Jack Paltrow, sortira le 6 juin chez Carlotta en édition DVD Blu-ray. Parmi les autres événements de ce mois de juin, un cycle consacré à Francis Ford Coppola, la Cinémathèque de Toulouse, du 1er au 30 juin. Une très bonne initiative, l'occasion de se replonger dans l'œuvre de l'un des plus grands cinéastes du Nouvel Hollywood, qui a démarré sa carrière à la fin des années 60, qui culminera bien sûr dans les années 70 avec la trilogie du Parrain et Apocalypse Now, selon moi le plus grand réalisateur au monde à l'époque, et puis qui va ensuite connaître une carrière un peu plus avec évidemment Dans de Scie, son souci énorme d'indépendance, la création de son studio American Zoetrope au début des années 80, un rêve qui va se fracasser face à l'échec cinglant de Coup de cœur, qui l'obligera ensuite à accepter des commandes plus ou moins bonnes. Dans les moins bonnes, évidemment, on peut citer le dispensable Peggy Sue s'est mariée, mais dans les évidemment mémorables, citons Le Parrain 3, qui à l'origine était une commande pour enflouer son studio American Zoetrope. Donc c'est une très bonne initiative de la Cinémathèque de Toulouse de se replonger dans cette œuvre. Au programme d'ailleurs presque tous les films du cinéaste, de Conversations secrètes en 1900, réalisé en 1974, Palme d'or au Festival de Cannes, à Apocalypse Now en 1979, deuxième Palme d'or au Festival de Cannes, la trilogie trilogie du Parrain, bien sûr. Et puis aussi ses films plus récents, notamment L'Idéaliste, L'Homme sans âge et Tétro. La Fondation Pathé, elle, propose pour clore sa saison un cycle autour des premières images du Maghreb. Et oui, les projecteurs seront plus précisément braqués sur le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. La Fondation exhumera les premières images filmées de ces trois pays d'Afrique du Nord et reviendra ainsi sur le regard pétri de l'idéologie coloniale que l'industrie cinématographique porte sur le Maghreb à l'orée du XXe siècle. Des films donc qui sont extrêmement rares. Deux cinéastes se démarquent cependant par leur regard intime sur le Maroc et la Tunisie. Gabriel Vert, bien sûr, qui fut un des collaborateurs inspirés évidemment des Frères Lumière, photographe et cinéaste qui dresse un portrait vibrant du Maroc. Et puis Albert Samana Chikli, qui fut le premier et seul cinéaste autochtone tunisien à réaliser des fictions dans son pays natal. Donc une sélection d'œuvres donc à redécouvrir à la Fondation Jérôme Sédou Pathé, avec un en ciné-concert au programme, donc entre autres Les Cinq Gentlemen Maudits de Louis Mora, L'Atlantide de Jacques Feder, Yasmina de André Hugon, L'Occident d'Henri Fécourt et Le Bled de Jean Renoir. Enfin, nous terminons cette partie événement rétrospective avec le cycle Cinépop Wiz au Forum des Images, qui a lieu du 6 juin au 6 juillet. Un cycle dédié à la musique populaire et surtout à ceux qui la font à travers différents mouvements musicaux, le glam rock, la French touch, le hip-hop ou la pop contemporaine. Un cycle qui proposera au public des leçons de cinéma autour de François de Roubaix, célèbre compositeur des films de Jean-Pierre Melville et de L'Homme Orchestre avec Louis de Funès, qui est présent dans ce cycle, et aussi une leçon de cinéma autour de David Bowie, ainsi qu'une programmation de 70 films, parmi lesquels Barry Lyndon, Christine, Do the Right Thing, Mauvais Sang, Les Aventuriers, Les Griffes de la Nuit, Phantom of the Paradise et le très, très survolté Sailor et Lula de David Lynch.
I didn't have much parental guidance.
Baby, you better run me back to the hotel. You got me hotter than Georgia asphalt.
This whole world wild at heart and weird on top.
Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.